Nous allons poursuivre notre troisième et dernière partie du livre de Daniel qui concerne l'histoire mondiale et sa fin. Donc je continue l'étude à partir du chapitre 8, la vision du bélier et du bouc. Pour bien comprendre ces chapitres, il faudrait peut-être lire les livres apocryphes de 1 et de Maccabée que l'on peut trouver dans la Bible Top et la Bible de Jérusalem, ce qui nous apporte un éclairage, une bonne idée des événements qui se sont produits au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qui sont prédits dans le livre de Daniel. Les événements évoqués ici concernent les étapes de l'évolution des empires médo-perses et grecs à partir de la date de la vision, soit vers l'an 550 avant Jésus-Christ, jusqu'à la persécution des Juifs par Antiochus Épiphane au deuxième siècle. Il s'agit de la lutte pour le pouvoir entre les Mèdes et les Perses. On a Cyrus qui grignote les contrées soumises à Babylone et étend son royaume jusqu'en Asie mineure et ses villes grecques prospèrent sur tout le littoral occidental. Je rappelle que le chapitre 8 correspond au chapitre 3. C'est un gros plan sur la deuxième et la troisième bête. On a un bélier à deux cornes qui frappe dans les quatre directions. Il représente le royaume médo-perse. Dans la géographie astrale des Chaldéens, le bélier représente la Perse. Les deux cornes sont la dualité médo-perse, et c'est la Perse qui va finir par dominer l'Empire. Suite à la défaite de Marathon et de Salamine, les rois perses envahissent la Grèce en l'an 490 avant Jésus-Christ. Ils incendient la ville d'Athènes. Alexandre de Macédoine est mis à la tête de cet empire par son père pour venger cet affront. Donc le bouc qui vient de l'Occident, à partir du verset 5, c'est Alexandre le Grand. Une petite information historique sur comment s'est constitué l'Empire grec. Au nord, à Macédoine, il y avait des cités-états qui se faisaient la guerre. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le roi Philippe a réussi à constituer une armée. Et son fils Alexandre, âgé de 18 ans, va avoir la carrière la plus fulgurante de toute l'histoire de l'humanité. Son précepteur était Aristote et de ce fait, il a bénéficié d'une excellente éducation. Et ces versets évoquent les guerres éclairs, les conquêtes rapides, l'avance fulgurante d'Alexandre le Grand. C'était un génie militaire, il a su profiter des rivalités entre les États. Il les a soumis, il a constitué une armée, est allé jusqu'en Inde et monté sur l'Himalaya. Il est allé en Égypte et puis il a fondé des Alexandries un peu partout. Mais il est mort très jeune, à 33 ans, au cours de ses conquêtes. Et il a laissé un très grand empire de civilisation grecque, bien au-delà de la Grèce. Et ce sont quatre de ses généraux qui se sont partagés cet empire, d'où le chiffre 4. Deux de ces royaumes ont eu une importance capitale pour Israël. La Syrie, avec le général Seleucus, et l'Égypte, avec le général Ptolémée Rabof. On parlait grec à la cour de ces deux royaumes. Et ils ont exercé vraiment une influence hellénistique sur le royaume de Juda. Ils l'ont annexé. C'était donc leur vassal. Après, pendant une période, on a le royaume d'Égypte avec les Ptolémées, et puis viendra le royaume de Syrie avec des rois qui ont exercé la domination sur Juda, dont Antiochus, qui vient du nom Antioche. Et c'est ce qu'exprime le verset 8. La corne est brisée, remplacée par quatre cornes. La petite corne représente Antiochus IV, qui se fera appeler Épiphane, c'est-à-dire la manifestation d'un dieu. Et le livre des Maccabées raconte cette période. Cet homme a réussi à s'imposer et il veut helléniser son royaume en éradiquant toute coutume propre à chaque ethnie. Le grand prêtre Onias est assassiné. Antiochus prend les richesses du temple et le peuple se révolte. À l'an 167, il abolit les pratiques juives, instaure le culte de Zeus dans le temple et à la mi-décembre, un sacrifice païen est offert sur l'autel du Seigneur. Le temple sera souillé par les sacrifices d'animaux, des animaux impurs et de la débauche. La circoncision et le sabbat sont interdits. On force les juifs à sacrifier aux idoles et à manger du porc. Cette épreuve de défaite pour le peuple juif a une durée limitée. 2300 soirs et matins, c'est-à-dire le nombre d'holocaustes qui n'auront pas été offerts. Mais en l'an 167, des prêtres vont prendre le maquis et commencer une résistance armée. C'est toute la famille sacerdotale des Maccabées qui se soulève et qui finit par vaincre avec notamment Judas Maccabée qui purifie le temple et rend le culte au Seigneur. 1150 jours, C'est un peu plus que 3 ans, d'après la date où le sacrifice perpétuel aurait cessé d'être offert. Daniel 8, au verset 9 et suivant, renvoie au dragon, Apocalypse 12, verset 4, où cette image est effectivement prise au livre de Daniel. On a la queue du dragon qui entraîne le tiers des étoiles et les jette sur la terre. On pense à une image des bouleversements cosmiques et des désordres produits par l'opposition du monstre à Dieu et à son peuple. Chez Daniel, c'était l'image d'Antiochus Épiphane qui a tant persécuté les Juifs. Le monstre accomplit des actions éclatantes, impressionnantes, terrifiantes, qui auront une répercussion cosmique. Toute la création est ébranlée. L'univers est affecté par ce désordre. Et le dragon face à la femme nous fait penser à Hérode, qui a fait tuer les enfants en bas âge dans le but de supprimer le roi des Juifs qui venait alors de naître. Et pour la première fois, le nom de l'ange Gabriel est indiqué dans Daniel 8, chapitre 15 et suivant. On le connaît puisque c'est lui qui annoncera la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie et la naissance de Jésus à Marie. Et on voit que l'histoire qui a amené l'exil se répète. Le peuple est infidèle. On voit aussi la ruse d'Antiochus et le massacre de la population juive qui est rapporté donc dans le livre des Maccabées. Grâce à son habileté, cet homme va réussir à tromper beaucoup de gens. Mais son orgueil remplira son cœur, il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix, et il sera brisé, sans aucune intervention humaine. La fin d'Antiochus est évoquée ici. À partir du verset 27, on a un Daniel épuisé, malade, contraint d'interrompre ses activités au service du roi. Il doit s'aliter. Mais en fait, c'est un problème de nature spirituelle. La stupeur de Daniel, c'est le résultat de la vision d'hommes qui piétinent les valeurs les plus sacrées. L'horreur suprême, c'est la transgression de la loi de Dieu pour lui. Ça nous enseigne que personne ne peut se permettre de prendre la présence de Dieu à la légère. Et mais si les croyants sont invités à se rapprocher avec assurance du trône de la grâce, ils ne doivent pas oublier que le Père Céleste est aussi un feu dévorant, comme nous le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 8 confirme la vision du chapitre 7, qui reprenait des détails de la statue du chapitre 2. On a le mélange de fer d'argile pour les pieds de la statue, qui représente les deux plus grandes divisions de l'Empire grec, l'Égypte et la Syrie, qui n'ont pas cessé de se combattre. Il y a eu des politiques d'intermariage entre les Lagides et les Séleucides pour essayer d'allier l'Égypte et la Syrie, et ces alliances ont en fait été suivies de trahison. La géographie astrale des Chaldéens est prise à témoin. Il est mentionné l'ours, le lion, le léopard. Dans le poème babylonien qui raconte la création, les 4 vents sont énumérés dans le même ordre que les 4 bêtes. Donc, la période grecque a succédé à la période hellénistique du léopard. C'est un empire beaucoup plus puissant que le précédent. C'est un monstre de fer. Et cet empire sera plus marqué par le droit que les autres empires, d'où l'impossibilité de trouver un animal pour le décrire. C'est un monstre, mais un empire marqué par sa fragilité, représenté par le mélange d'argile et de fer qui représente les luttes politiques. Le chapitre 9 concerne la prophétie des 70 septaines et il va compléter les visions précédentes. Il y a 2 contextes en fait. Le contexte politique, Daniel est octogénaire, donc c'est vraiment un vieillard, mais grâce à sa longue vie, il peut être témoin de la fin de l'exil avec la publication de l'édit de Cyrus en l'an 538, autorisant les peuples déportés par les Babyloniens à rentrer chez eux. Et puis, il y a le contexte spirituel. Daniel le voit dans ses campagnes une preuve de la manière dont le Seigneur dirige l'histoire de son peuple. C'est la restauration du peuple de Dieu et l'instauration du royaume figuré au chapitre 2 par la petite pierre et dont le commun fils d'homme du chapitre 7 est le roi et le représentant. On retrouve l'ange Gabriel et une prière remplace le récit de vision. Donc, Babylone vient de tomber. On se souvient que Jérémie avait prédit 70 ans d'exil et la méditation des textes de Jérémie au chapitre 25, c'est en fait le point de départ de ce qui nous est raconté ici. Cette méditation pousse Daniel à la prière car il comprend que c'est le moment pour que Dieu accomplisse sa promesse. C'est une chose importante parce que ça nous montre que Moins de 50 ans après sa mort, le livre de Jérémie était déjà constitué et reconnu comme parole de Dieu. Il a réussi à s'imposer, donc, Antiochus Épiphane, mais à la question qui obsédait Daniel comme les psalmistes, jusqu'à quand le peuple souffrira-t-il du mal qui règne dans le monde, l'ange le rassure. Daniel a déjà définitivement établi, Dieu a déjà définitivement établi les échéances en vue de l'inauguration de la nouvelle alliance dont Daniel a dû avoir connaissance par la lecture de Jérémie. Plusieurs interprétations sont données pour ces septaines, dont trois principales, mais on ne va pas entrer trop dans le détail parce qu'il ne faut pas oublier que les nombres sont symboliques. Par exemple, la domination babylonienne a duré 67 ans. Mais ce sont des chiffres ronds, c'est une indication globale, un ordre de grandeur. On ne peut pas compter exactement. Chez Jérémie, ce sont 10 séries de 7 ans, des années sabbatiques qu'on devait célébrer tous les 7 ans. Et puis il y avait l'année de Jachère, le repos pour les terres cultivées selon le Lévitique 25. Et la sanction de l'exil, c'est un temps de sabbat pour la terre destiné à compenser les années sabbatiques qui n'auraient pas été observées par les Israélites. Et c'est aussi de cette manière que sont interprétés les 70 ans de Jérémie dans le livre, deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, où les 70 ans de l'exil sont expliqués pour que le pays jouisse de ses sabbats dont il n'a pas joui pendant 70 ans. Puisque la loi de Dieu n'a pas été respectée, le pays s'est rattrapé. Voilà la justice de Dieu. Donc si les 70 ans sont symboliques, les 70 septaines le sont aussi. Ces 70 ans représentent 70 septaines, donc pendant lesquelles les années sabbatiques n'ont pas été respectées, soit 70 fois 7 ans d'histoire antérieure. Mais voilà, il ne faut pas trop se focaliser sur les chiffres. Daniel indique que le retour de l'exil et la reconstruction du temple ne seront pas la fin dernière. Ce n'est pas encore le temps du salut final. Cet oracle annonce un rebondissement. Car après les 70 ans de Jérémie, il y aura encore 70 septaines pour faire venir le salut. La fin des 70 ans, ce n'est qu'un point de départ. Et la fin des 70 ans n'est qu'un point de départ. Le retour de l'exil va avoir lieu à partir de 538, mais le salut mettra 70 septaines d'années à venir. Si les 70 ans de Jérémie évoquent des années sabbatiques, les 70 septaines évoquent en fait des années jubilaires qui survenaient après 7 années sabbatiques. L'année jubilaire, c'était une année de libération pour tout Israélite, une année au cours de laquelle les terres retournaient à leur propriétaire initial. Et l'oracle de Daniel signifie donc que le retour de l'exil ne constitue qu'un premier sabbat, ou une première année sabbatique, et que le salut final ne viendra qu'au temps du jubilé. Le prophète Ésaïe a déjà utilisé cette image pour parler du salut eschatologique en Ésaïe 61. Au cours de cette année-là, le salut est proclamé et apporté par un oint du Seigneur. C'est donc le chapitre 61 d'Ésaïe qui va servir d'arrière-plan à la prophétie de Daniel au chapitre 9, parce que les deux oints sont les mêmes. Le serviteur du Seigneur. Et Daniel parle bien du salut eschatologique comme devant suivre les 70 septaines, et il en parle sous deux aspects qui rappellent l'œuvre du serviteur d'Ésaïe, l'expiation des péchés et la réalisation de la justice. Loin de Daniel, c'est bien le serviteur d'Ésaïe, c'est-à-dire Jésus-Christ. La promesse du Lévitique est que Dieu se souviendra de son alliance, qu'elle demeurera en vigueur malgré les infidélités du peuple. Chez Ésaïe et Jérémie, le fait que Dieu se souvienne de son alliance se traduit par la conclusion d'une nouvelle alliance de Dieu avec son peuple qui va englober l'ancienne alliance pour la dépasser. Dans ces prophéties, le salut accompagnant l'alliance nouvelle comporte deux aspects principaux. Donc, le pardon des péchés, et la purification du temple, la purification du peuple qui va obéir au Seigneur conformément à la justice telle que la loi la définit. C'est-à-dire que c'est chez Daniel, c'est une justice éternelle. Donc en Lévitique 26 comme en Daniel 9, les promesses de salut sont équivalentes aux promesses concernant la Nouvelle Alliance. Et dans Daniel, on peut relever six clauses. Trois négatives, trois positives. Tout d'abord, les trois références négatives concernent la suppression du mal et utilisent des mots caractéristiques de l'Ancien Testament pour décrire le péché. Il s'agit des mots crime, péché, faute. Viennent ensuite trois références positives pour l'instauration du bien. Il s'agit d'amener la justice éternelle, d'accomplir les visions, les prophéties, et on a aussi l'expression le Saint des Saints. C'est en fait ce qui s'est passé quand Jésus est venu au milieu de nous lors de sa première venue. Et ce verset de Daniel 9, donc 24, résume la première venue de Jésus-Christ. Il est venu expier la faute et mettre fin aux œuvres du diable. Il est venu amener la justice éternelle. C'est le temps de la grâce. Il a accompli les prophéties. Il a oint le Saint des Saints. Il a oint du Saint-Esprit s'applique à Jésus et aux siens qui sont en lui, le temple véritable et le souverain sacrificateur. C'est un résumé, une plénitude de tout ce que Jésus apporte. Le schéma chronologique, il y a d'abord donc la reconstruction du temple jusqu'au Jésus, Messie, et c'est effectivement le délai, il fallait être vigilant. Après, il sera retranché, ça c'est une allusion à la mort de Jésus. Et ensuite, la suite de rejet, en l'an 70, on a la destruction du temple par l'empereur Titus. Le verset 27 montre qu'il fera prévaloir l'alliance et cesser le sacrifice, ce que Jésus a fait puisque tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont cessé. Et ensuite, c'est la fin du monde romain en terre d'Israël. Donc, l'oracle de Gabriel répond par l'assurance que Dieu maintiendra son alliance avec son peuple, selon ce qui était promis dans le même texte du Lévitique. La purification du peuple s'accompagne d'une consécration du sanctuaire où le peuple servira le Seigneur dans le cadre de l'alliance renouvelée. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 37, parlait lui aussi d'un sanctuaire dans le cadre de la nouvelle alliance. Le prophète Zacharie, au chapitre 6, évoque le temple que le Messie bâtira. Mais chez Zacharie, le Messie est la pierre angulaire du temple et le temple représente la communauté du peuple de Dieu, ce qu'on retrouvera dans le Nouveau Testament. Il est mentionné au verset 25 à la fin « Dans la détresse des temps ». C'est un temps d'épreuve pour le peuple de Dieu. Et ces versets sont les plus difficiles et tous les évangéliques ne sont pas d'accord sur leur interprétation. Donc je vais simplement aborder l'interprétation la plus traditionnelle. La parole concernant la reconstruction du temple, c'est le décret de Cyrus en l'an 538 avant Jésus-Christ qui permet cette restauration de Jérusalem qui va débuter peu après mais va s'étaler dans le temps. La reconstruction des murailles sous Néhémie n'est en fait qu'un épisode. Tant que l'Ouen n'est pas encore venu, il y aura des temps difficiles. Au bout de 62 septaines, un Ouen sera retranché. La restauration inaugurée avec le retour de l'exil devait demeurer provisoire puisque la reconstruction de la ville et du temple allait aboutir à une nouvelle destruction. Et les événements annoncés ici ressemblent à un second exil. Aux 70 ans de captivité babylonienne correspondent les 70 septaines. Nebuchadnezzar, on se souvient, s'était emparé des ustensiles du temple et Belshazzar, lui, les avait profanés. Il y aura donc une nouvelle profanation du temple. Comme en l'an 587, Jérusalem et son temple seront détruits. Et au bout des 62 septaines qui suivent les sept premières, un oint retranché, le même sans doute qu'au verset précédent. Le mot retranché dans la loi mosaïque est utilisé pour expliquer la peine de mort. Mais on le rencontre surtout en Ésaïe 53 dans la prophétie qui concerne le Messie. L'allusion est très claire. Dieu a parlé de l'expiation des péchés et il parle du retranchement de Noé que nous avons déjà identifié au serviteur du Seigneur en Ésaïe 61. L'arrière-plan d'Ésaïe à l'oracle de Daniel laisse entendre que l'expiation des péchés s'effectue par le retranchement de loin. Une expression peu claire, pas pour lui-même ou à cause de lui-même qu'il a été retranché, sans qu'il y ait quelqu'un pour l'aider. Ça nous renverrait au psaume 1. C'est un autre psaume, excusez-moi, psaume 112, dont le cri poussé par Jésus sur la croix, « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» montre que l'abandon du Messie, qu'il a été retranché sans que personne ne vienne le secourir. La ville et son temple seront à nouveau détruits. Donc par Titus, cet empereur romain au pouvoir de 79 à 81 après Jésus-Christ, et qui va rester célèbre pour cette prise de Jérusalem en l'an 70. Pour commémorer cette victoire, son frère qui va lui succéder fera construire l'arc de Titus à Rome, c'est un arc de triomphe. La mort de loin, en expiant les péchés, rend inutile le sacrifice de la loi mosaïque, et c'est ce qui explique l'annonce d'une cessation des sacrifices et des offrandes. Elle sera concrétisée par la destruction de Jérusalem et de son temple. L'alliance de Moïse est dépassée, d'où la conclusion d'une nouvelle alliance par loin. Cela nous renvoie donc à l'annonce de la nouvelle alliance qu'avaient déjà annoncée Jérémie et Ézéchiel. Et le Nouveau Testament ne laisse aucun doute là-dessus. C'est bien dans le sang de loin, c'est-à-dire par sa mort, que sera conclue la nouvelle alliance. La fin de l'oracle, au verset 27, à la fin, s'applique à Titus, et le temple a bien été détruit donc par les armées romaines. Et comme la dévastation de Jérusalem en l'an 587 sanctionnait la rupture de l'alliance par les Israélites, cette dévastation à venir constituera la sanction de l'alliance pour ceux qui auront rejeté le Messie. C'est ce que Jésus exprimera lui-même dans la parabole des invités en Matthieu 22 et par Paul en Acte 13. Ésaïe, je renvoie à Ésaïe chapitre 10, où on retrouve une allusion de ce texte chez Daniel par la reprise d'un certain nombre de mots ou d'expressions importantes, notamment ceux qui servent à évoquer le jugement. On a par exemple les mots anéantissement, justice, Dieu fort, parce que Daniel évoque le même événement qu'Ésaïe. Un jugement va opérer un tri au sein des Israélites et réduire Israël à un reste. La destruction de Jérusalem et du Temple par les armées de Titus en l'an 70 marquait le rejet par Dieu des Israélites qui, eux, avaient rejeté le Messie alors que se constituait la nouvelle communauté messianique, avec pour noyau ce reste d'Israël composé de croyants juifs en Jésus qui bénéficient de l'alliance conclue dans le sein du Messie. L'annonce d'une nouvelle destruction de la ville doit être mise en rapport avec la cessation du système des sacrifices. Dans la nouvelle alliance, Jérusalem cesse de jouer un rôle clé et on n'a plus besoin de son temple puisque les sacrifices sont cessés. Le sanctuaire sera détruit pour laisser la place au sein des saints et c'est le peuple de Dieu qui sera lui-même le sanctuaire du Seigneur. Et ce thème sera abondamment repris dans le Nouveau Testament. On retrouvera les trois temps et demi au chapitre 12 comme étant le temps que dure la fin. L'Apocalypse appliquera cette durée au temps qui sépare les deux venues de Christ. Loin fait cesser les sacrifices et les offrandes au milieu de la septaine. La première moitié de la septaine correspond à la période de la présence de Loin sous l'Ancienne Alliance. La seconde moitié est le temps de la Nouvelle Alliance. Dans les chapitres 10 à 12, donc jusqu'à la fin du livre de Daniel, on a la dernière révélation, c'est-à-dire le temps de la fin. La première et la troisième vision de la moitié du livre nous montraient Daniel plongé dans le rêve au chapitre 7 et dans la présence de Dieu par la prière au chapitre 9. Et dans la troisième vision, il reste dans le monde visible tout en étant transporté en esprit à Suse au chapitre 8. Et dans la quatrième et dernière vision, il est au bord du fleuve, le Tigre. Ça évoque le récit du jardin d'Éden où l'homme, dans son état d'innocence, pouvait communier librement avec son Créateur. Et les réalités terrestres et les réalités célestes sont liées ici. Daniel contemple la fin du monde. Il est question de l'idolâtrie, Le comble étant mis au péché de Babylone au chapitre 5, et on a quelque chose de semblable dans cette nouvelle partie. Les objets précieux d'argent et d'or rappellent les ustensiles du temple ou les dieux d'or et d'argent du chapitre 5. Donc on va commencer avec le chapitre 10 qui nous parle de l'homme vêtu de lin et son combat. Daniel jeûne partiellement depuis 3 semaines quand il reçoit une révélation. Il voit un personnage qui rappelle la vision de la gloire de Dieu. Les jambes sont comme du bronze, il y a des éclairs, des torches de feu, la chrysolite, la voix comme le bruit d'une foule identifiée à celle de Tout-Puissant, une apparence humaine, du bronze, du feu. Et cette vision rappelle aussi le personnage vêtu de lin d'une autre vision. En Ézéchiel chapitre 9 verset 2, c'est un individu qui était distinct du Seigneur. Ce personnage, c'est le même que celui du chapitre 7, le « comme un fils d'homme », qui avait à la fois les traits du Seigneur, et en même temps, il est distinct de l'Ancien des Jours. C'est ce qu'on retrouve aussi au chapitre 1 de l'Apocalypse, puisqu'il porte la longue robe, la ceinture d'or du personnage de Daniel 10, et il a la voix dont le son est semblable à celui des grandes eaux, comme celle qui accompagne la gloire du Seigneur, dans la vision d'Ézéchiel aussi. Seule la christologie trinitaire du Nouveau Testament permet de comprendre que le personnage vêtu de lin soit tantôt identifié à la gloire du Seigneur et tantôt distingué de lui. Le verset 7 nous fait penser à l'apparition de Jésus à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il n'y a que lui qui le voit, que lui qui voit cette apparition. Les autres autour ne voient rien du tout. Le personnage relève Daniel et le fait tenir debout, tout comme l'esprit qui accompagnait la gloire du Seigneur dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 2, et comme d'ailleurs le fera Jésus dans l'Apocalypse au chapitre 1 concernant Jean. La finalité de cet échange avec le prophète, c'est tout d'abord de lui apporter la confirmation que Dieu a entendu et exaucé sa prière, lui expliquer pourquoi il a dû attendre cette nouvelle pendant 3 semaines et lui faire connaître l'avenir de son peuple par un récit détaillé des œuvres majeures et une révélation eschatologique assez inédite. C'est un programme ambitieux qui justement justifiait l'intervention d'un visiteur de son importance. Je vous encourage à lire maintenant donc le chapitre 10, les versets 12 à 21. En réponse aux prières, voici la réponse. Il y a un combat entre le personnage qui se tient debout devant Daniel et le prince du royaume de Perse qui s'est opposé à lui pendant 21 jours, ce qui est soi-disant passant la même durée que le jeûne partiel de Daniel. Puis quelqu'un touche les lèvres de Daniel. Et sa réaction, verset 9, suggère que le personnage est divin, il perd connaissance et tombe la face contre terre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les coulisses de l'histoire ? Tout d'abord, que Dieu est tout-puissant pour proclamer sa victoire finale dans la lutte qu'il oppose aux forces du mal. Il est tout-puissant pour orienter la marche du monde selon une pensée infiniment supérieure à la nôtre. Et si l'historien peut analyser les forces à l'œuvre au sein de l'humanité selon des paramètres terrestres, eh bien, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours évident pour l'historien. Et Daniel va nous lever un coin de voile sur la manière d'opérer du Dieu souverain. Le personnage encourage et fortifie Daniel, et le combat va se poursuivre, et le dénouement espéré par Daniel ne viendra pas tout de suite. Le prince de Grèce succédera au prince de Perse, dans l'opposition au peuple de Dieu ou à son culte. C'est le même message que ce qu'on avait vu dans les visions des chapitres 2, chapitre 7 et chapitre 8. Les prières de Daniel ne vont pas être exaucées immédiatement, mais le combat finira par être gagné. Qui est l'ange Michel ? En Apocalypse 12, il est question d'une guerre dans le ciel qui met en scène Michel et ses anges qui combattirent le dragon. Michel, c'est le chef des anges. Il s'oppose au dragon, le chef des anges déchus. Il combat aux côtés du comme un fils d'homme, le Messie en faveur du peuple de Dieu. C'est donc un ange qui exerce un ministère en faveur du peuple de Dieu et qui combat pour lui ou à ses côtés. Dans le contexte, Daniel fait référence à des combats qui se déroulent sur terre et dans lesquels le peuple de Dieu se trouve impliqué. L'entrée en scène de Daniel souligne la dimension cosmique de ces luttes terrestres, c'est-à-dire que les anges y participent aussi. Le chapitre est assez unique dans toute l'écriture, chapitre 11, parce que c'est vraiment de l'histoire préécrite. Jusqu'au verset 35, on a toute la description de la période grecque, avec la longue succession de conflits entre les Lagides et les Séleucides, qui vont aboutir au règne d'Antiochus Épiphane. Le roi vaillant, c'est Alexandre le Grand, qui était représenté par la grande corne du bouc, au chapitre 8. Et à la mort d'Alexandre le Grand, le royaume est partagé entre les quatre diadoques, ses généraux. Et jusqu'au verset 30, on a toute une description des événements. Concernant la persécution des Juifs par Antiochus IV, les historiens confirment le portrait biblique peu flatteur d'Antiochus. En l'an 167, il a lancé une grande croisade contre le culte juif et, comme je l'ai dit, a interdit sous peine de mort la circoncision, les fêtes religieuses. Il a fait dresser une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem, a souillé l'autel par des sacrifices impurs, notamment des porcs et d'autres animaux. Et c'est là que le vieux prêtre Mattathias et ses cinq fils vont mener une révolte armée et triompher. La persécution aura une conséquence positive puisque ce sera la purification de la nation. Et la victoire sur l'armée syrienne aboutit à la libération de Jérusalem et une nouvelle inauguration du temple à l'an 164. Antiochus connaîtra l'année suivante une fée honteuse, atteinte de folie selon certaines sources. Donc voilà pour les détails historiques. Le chapitre 12 aborde le dénouement. Comme le peuple de l'Alliance du Sinaï a connu une persécution intense avant la première venue de Jésus, le peuple de la Nouvelle Alliance connaîtra une grande épreuve avant sa deuxième venue. L'ange a révélé au chapitre 11 que cette tribulation permettra de faire le tri entre les vrais et les faux croyants. Le temps de la fin amène un jugement plus sévère que pendant toute l'histoire qui a précédé. Jésus cite ce texte en Matthieu 24, verset 21, pour évoquer l'épreuve finale qui doit précéder son retour. L'image du livre porte le nom des membres du peuple de Dieu. Ça évoque le fait que Dieu connaît les membres de son peuple. Ça évoque aussi l'élection par le peuple de Dieu. Ils sont enregistrés comme étant de son peuple pour le salut et ce sont ceux que Dieu a décidé d'inscrire. Et Matthieu 24 mentionne que les élus seront épargnés dans les jours de grande détresse. Donc au chapitre de Daniel 12, verset 2, on voit la résurrection. Les défunts sont désignés comme ceux qui dorment dans le sol poussiéreux. Ça peut être une allusion à la malédiction prononcée contre Adam et l'humanité suite à la première faute en Genèse. Ils se réveilleront. Donc cette malédiction sera levée. C'est une double résurrection des morts avec un sort double. La vie éternelle pour les uns et l'horreur éternelle pour les autres. Deux textes de l'évangile de Jean annoncent la double résurrection dans un langage proche de celui de Daniel. Mais Jésus présente cette résurrection comme ayant un aspect à la fois présent et futur. On a tout d'abord Jean, chapitre 5, verset 25. Celui qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est passé de la mort à la vie. L'heure vient et il est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Et on a ensuite Jean 5, versets 28 et 29. L'heure vient où tous ceux qui sont tombés entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Le présent est évoqué au verset 25. La promesse de vie qui suit, c'est une réalité présente, une vie nouvelle par l'Esprit, que reçoivent dès à présent ceux qui ont entendu la voix du Fils de Dieu et qui l'ont cru et lui ont obéi. Elle ne concerne que les croyants. Puis, Jésus évoque la résurrection corporelle à venir, c'est-à-dire ceux qui gisent dans les tombeaux, et cela concerne tous les êtres humains, et il mentionne, comme Daniel, leur double sort. Le fait que la résurrection est un aspect présent confirme la première venue du Christ qui a inauguré le temps de la fin dont parlait Daniel. Puis les justes sont mentionnés. C'est une description qui fait penser aux théophanies. Eux qui auront rendu justes les nombreux, ce langage fait penser au quatrième chant du serviteur, Ésaïe, donc 53, verset 10, où le serviteur justifie les nombreux par la connaissance qu'on aura de lui. Chez Daniel, le sens du mot justifier a un sens différent. Les hommes qui auront eu de la sagesse vont rendre les gens justes sans doute par leur enseignement. Et puis, il y a le livre qui est scellé, sans doute pour sa conservation, ce qui indique que l'accomplissement de ces prophéties ne devait venir que dans un temps bien éloigné. Ça nous renvoie à l'Apocalypse, au chapitre 5, qui parle d'un livre scellé de 7 sceaux et d'un agneau immolé. L'agneau a 7 cornes, image de la puissance et de force dans toute la littérature apocalyptique, et le chiffre 7, symbole de perfection et de totalité. Dans ce passage, nous représenter la puissance, la force par laquelle l'agneau a vaincu, mais aussi c'est le pouvoir qui est le sien. Cette victoire est parfaite et le pouvoir de l'agneau a un pouvoir total, car après sa mort, Jésus a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné ». L'image était connue dans la littérature apocalyptique juive. Un agneau avec sept cornes représentait le Messie vainqueur. Daniel, au chapitre 12, avait reçu l'ordre suivant « Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin ». Or, le livre que Daniel devrait sceller contient l'annonce de la nouvelle alliance. Dans l'Apocalypse, l'agneau reçoit le droit de rompre les sceaux, car c'est en lui qui conclut la nouvelle alliance et qui accomplit les promesses faites par Daniel. Et concernant ce verset de Daniel 12, ça nous renvoie au chapitre 10 de l'Apocalypse, où l'ange précise que c'est au septième coup de la trompette que sonnera la fin de ce délai, et alors le mystère de Dieu s'accomplira. Il réalisera toutes ses promesses et portera son œuvre de salut à son achèvement. Cette scène de l'ange annonçant la fin nous rappelle la vision de Daniel 12. Les paroles par lesquelles l'ange prête serment en Apocalypse sont une citation des propos de l'individu vêtu de lin. Et on note que cet individu est décrit avec des traits qu'on retrouve dans la vision du ressuscité en Apocalypse 1. Les traits sont communs. Ceinture d'or, des yeux comme des flammes de feu, les pieds là ayant l'apparence du bronze et la puissance de la voix. Et voilà la confirmation de ce que l'ange d'Apocalypse 10 n'est en fait que le ressuscité. Et en même temps, l'ange jure par celui qui vit éternellement, c'est-à-dire par Dieu, et il se distingue comme ça. C'est le même phénomène que pour l'ange du Seigneur de l'Ancien Testament. Il est à la fois identifié à Dieu et distingué de Dieu. C'est la doctrine de la Trinité. Le délai annoncé en Apocalypse 10 vient aussi du livre de Daniel, où la fin n'en finit pas de venir. Même si elle paraît tardée, il faut l'attendre jusqu'au bout. Car c'est une chose certaine, il y aura bien une fin. Nombreux seront perplexes, mais la connaissance augmentera. C'est une affirmation qui clôt le discours du personnage à l'apparence humaine. L'histoire ne se déroule pas toujours comme s'y attendraient les croyants. Elle n'est donc pas toujours facile à interpréter à la lumière des promesses de Dieu. Daniel lui-même s'attendait à ce que toutes les prophéties antérieures s'accomplissent avec le retour de l'exil, et Dieu lui a fait comprendre que ce n'était pas le cas. De même que la génération qui rentre de l'exil s'est trouvée perplexe devant les commencements bien petits de l'accomplissement des promesses divines, aujourd'hui encore, les temps difficiles ou la détresse des temps que traverse le peuple de Dieu peuvent être source de perplexité, et la réalité semble souvent ne pas coller à notre foi. Il faut se rappeler que Daniel lui-même était perplexe. Mais un jour, la connaissance augmentera, sans doute au temps de la fin, et peut-être qu'on comprendra alors le sens du livre. des versets 5 au verset 12, les délais sont évoqués. Daniel voit deux hommes sur les rives du fleuve. Une question sur le délai qui doit s'écouler avant que la fin arrive. Et la réponse de l'ange est donnée de manière très solennelle au verset 7, dite comme un serment au nom de Dieu avec le geste caractéristique. Les deux mains levées, il annonce l'échéance. Un temps, des temps et une moitié. Alors, pourquoi jurer de manière aussi solennelle pour un délai aussi peu précis? En fait, le serment est là pour confirmer qu'il y aura une fin et que le délai en est fixé. Comme se disait promis juré. Dieu ne va pas constamment repousser ce délai. Mais le décompte est étrange. Quel est le point de départ? Quelle est l'unité de mesure? Le nombre d'états n'est pas clairement indiqué. La réponse n'est pas tant dans la durée que dans la manière dont la durée est indiquée. Et face à ce mystère, il ne faut pas essayer de convertir des chiffres, car Jésus a dit lui-même que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges, ni le Fils de Dieu lui-même. Le Père en garde le secret. C'est bien la première fois que Jésus ignore quelque chose. Et il a dit à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de savoir le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Dieu est le seul à connaître le délai fixé. Concernant ce décompte, il faut dire quelque chose. C'est que le temps n'est pas présenté comme un bloc, mais comme une succession d'échéances. On pourrait traduire une échéance, des échéances, une moitié. Et l'expression qui est employée ici pourrait être traduite par rendez-vous, puisque c'est le même mot. La première échéance pourrait être la venue du Fils de Dieu, mais le nombre d'échéances n'est pas indiqué. Et on peut remarquer que dans notre échéance contemporaine, il y a eu des échéances marquantes. Par exemple, la fin d'Hitler, la chute du communisme, des échéances qui laissaient penser que c'était la fin. On a beaucoup dansé à la libération et à la chute du mur de Berlin, comme si le monde allait être beau. Mais ce n'était pas l'échéance finale. D'autres puissances oppressives ont pris la place des précédentes. Le pluriel montre qu'il y a autre chose avant la venue en gloire de notre Seigneur Jésus. La demi-mesure qui achève le décompte nous dit autre chose. Ce temps long, indéterminé pour nous, est raccourci vers la fin. Dieu abrège le cours de l'histoire en mettant fin à la folie humaine, à la violence, l'arrogance, et il établit son règne de justice. Daniel 12, verset 8, une autre question surgit, posée ce coup-ci par Daniel. Quelle est la fin de toutes ces choses? La question ne porte pas sur la fin du délai, mais sur le sens de tout ça. L'ange répond à la perplexité de quelqu'un qui a entendu tout ce qui précède, mais il ne va pas tout expliquer. Et à partir du verset 10, il va nous laisser deux choses à méditer pour notre propre instruction. Beaucoup seront justifiés, les méchants seront méchants. Une multitude sera purifiée, la fin est encore présentée comme un temps d'épreuve. Et Jésus, en Matthieu 24 et Jean dans l'Apocalypse, appelle le temps de la fin la grande tribulation. Donc, deux choses à méditer. Tout d'abord, c'est que les difficultés pour le croyant dans ce monde sont un moyen d'approfondissement de la foi, un moyen de purification. Il dit trois fois cela pour faire ressentir ce long processus. Purifier, laver, épurer. Et nous avons tous besoin de ce travail en profondeur. Ce n'est pas un temps mort dans notre vie, ce ne sont pas des tracasseries inutiles auxquelles on serait condamné dans ce monde, mais le savoir, y adhérer, nous y appliquer, tout cela donne un sens à notre vie dans un monde qui n'est pas toujours aussi beau. Deuxième chose à méditer, les méchants seront méchants. C'est aussi un temps pendant lequel chacun se détermine clairement comme impie ou comme sage, ce qui est une manière en fait de désigner ceux qui se laissent instruire par Dieu. L'épreuve y contribuera de façon toute particulière en forçant chacun à se révéler. L'Apocalypse considère aussi ce temps comme celui où on se détermine pour ou contre le Seigneur. Et c'est encore le temps où les bêtes qui représentent les empires de ce monde reçoivent une prolongation d'existence tout en ayant perdu leur souveraineté. Et notre mission, c'est d'amener les méchants à l'évangile. C'est d'accomplir cette mission, pas en rêvant que le monde sera beau, pas en rêvant que l'amour va vaincre la violence, mais en sauver quelques-uns, comme le dira Paul. Parce que dans ce monde, il y aura toujours des méchants qui le resteront et qui ne comprendront pas. Et le savoir, en prendre conscience, ça donne plus de poids et plus de prix à notre engagement pour le bien et notre attachement à Jésus-Christ. Et c'est aussi ce qui rend l'indispensable intervention directe de Dieu à la fin de l'histoire. Daniel ne verra pas cette fin de son vivant. Il persévérera jusqu'à sa mort. Il entrera dans son repos. Et, à la fin, il se lèvera pour voir sa récompense. Il va la recevoir. Et ça, c'est le sort de tous ceux qui nous ont précédés. Au verset 11, on a une nouvelle indication de durée, 1290 jours. Donc, il part de la destruction du temple en l'an 70. Souvenez-vous que les chiffres sont symboliques. On a ensuite, au verset 12, 1335 jours. C'est une exhortation à la persévérance, une attente patiente. Il faudra tenir bon jusqu'au bout, même si la fin paraît longue. Et puis le dernier mot, verset 13, concerne Daniel lui-même. Va jusqu'à la fin, reste fidèle jusqu'à la fin de ta vie. Tu auras du repos, nous fait penser à l'état intermédiaire d'Apocalypse 14, verset 13, plus une promesse de résurrection pour la vie éternelle. Et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. Il apparaît donc que les chapitres 10 à 12 ont pour fonction de développer, de préciser le message du chapitre 9 concernant la fin des temps. Mais ça insiste vraiment sur le fait que la fin n'est pas pour tout de suite et que le retour de l'exil n'est que le début d'un long processus qui aboutira dans un avenir lointain à la pleine réalisation des prophéties. Concernant l'eschatologie, ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on apprend du livre de Daniel concernant l'eschatologie ? C'est que tout d'abord, l'exil n'est que la première étape d'un long processus. Du début de l'exil jusqu'à la fin, il y a 70 septaines. Le temps de la fin dure 3 ans et demi et il commence sous le 4e empire mondial, c'est-à-dire Rome. Il s'ouvre avec la venue du Christ. C'est le prince loin du chapitre 29, mais qui est aussi le serviteur d'Ésaïe. Et on a en particulier la mention de sa mort expiatoire avec la destruction du temple de Jérusalem, aussi en l'an 70, après Jésus-Christ. C'est alors que les royaumes du monde sont jugés. Mais le monde subsiste après avoir perdu son pouvoir pendant 3 ans et demi, ce qui correspond dans le Nouveau Testament au temps des nations. Au chapitre 7, la petite corne identifiée à l'Antichrist est à l'origine de la persécution des saints pendant les 3 ans et demi. L'Apocalypse peut nous fournir la clé de la compréhension dans la description de la bête qui monte de la mer et qui récapitule les 4 empires de Daniel, qui possède les 7 têtes représentant 7 rois qui se succèdent. Elle est à la fois un 8e roi et l'une des 7 têtes. Il s'agit donc d'un roi qui vient en dernier lieu après tous les autres, mais qui récapitule en même temps tout ce qu'a pu représenter la bête en montrant le mal à son apogée. Et de même que dans le livre de Daniel, l'Antichrist est le 4e animal, mais il y a aussi la petite corne qui vient en dernier lieu sur cet animal. Car la corne à la pointe de l'animal récapitule tout ce qu'il est et représente en poussant à l'extrême son mauvais caractère. On retrouve cette dualité dans le Nouveau Testament et par l'affirmation que l'esprit de l'Antichrist est déjà là et à l'œuvre, tandis que l'Antichrist doit encore venir. L'Antichrist lui-même vient à la fin des 3 ans et demi. Ce sera l'époque des 3 ans et demi de l'Apocalypse, au chapitre 11, qui correspondent peut-être aux 30 jours supplémentaires de Daniel 12, puisqu'on a 1290 jours. En conclusion, on pourrait se demander jusqu'à quand, dire comme Daniel, jusqu'à quand les injustices, la violence, les guerres, les persécutions, les attentats. De tout temps, il y a eu des questions angoissantes, préoccupantes. Et dans toute la Bible, on voit que les personnes se posent cette question. Et c'est intéressant de remarquer que, au chapitre 10, c'est un être céleste qui pose la question qui préoccupe Dieu et nous-mêmes. Nous ne savons pas la date de notre mort, ni la date certaine de l'avènement de Jésus. Et ce qui est le plus important au milieu de toutes ces visions, c'est l'attitude de Daniel. Daniel est pour nous l'exemple d'un homme qui dirige ses regards vers la fin certaine que le Père a fixée. Et quand survient cette question lancinante, jusqu'à quand ça va durer? Eh bien, la meilleure attitude à adopter, c'est de s'attacher plus fermement à Jésus-Christ, d'attendre avec foi son retour, de participer à l'œuvre de purification qu'il veut accomplir à nous par son esprit et d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc voici, nous avons terminé l'étude du livre de Daniel en entier, un livre compliqué, parce que vous avez vu, surtout dans la fin, c'est assez fatigant. On a beaucoup de renvois avec l'Apocalypse, il faut vraiment faire du jonglage entre les chapitres. Mais c'est intéressant de le lire posément et puis de voir ce que le Seigneur a prévu. Une chose est certaine, c'est que l'attitude de Daniel nous encourage à persévérer et à exercer notre piété, même si nous ne voyons pas tout, comme Daniel ne verra pas tout. Mais le Seigneur a un plan prévu qu'il va accomplir en son temps parce qu'il est le maître de l'histoire.